sure about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Anna Segalevitch et Joël Gaillot se font face à notre affiche dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès, mise en scène par Roland Osé, c'est au Théâtre des Bouffes du Nord. Les chatouilles ou la danse de la colère, une pièce d'Andréa Bescon, mise en scène par Éric Métayer au Petit Montparnasse. Nous évoquerons aussi des territoires, nous sifflerons la Marseillaise, texte et mise en scène de Baptiste Amann à Théâtre Ouvert et L'être personne d'après Montesquieu à l'Étoile du Nord. Je passerai un coup de fil en fin d'émission à la metteur en scène Adeline Rosenstein pour parler avec elle de Décrit Ravage. Avant cela, vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour le spectacle L'Illusion Comique, mise en scène par Vincent Tavernier, c'est au Théâtre Montansier à Versailles. Place à gagner pour la représentation du jeudi 11 février à 20h30. Enfin, nous avons rendez-vous toute cette semaine avec le cinéaste et comédien Charounas Bartas, qui est l'invité de La Dispute. Un peu avant 21h, mettre un casque et attendre que ça commence. J'ai eu une étrange impression l'autre soir au Bouffes du Nord, mais je n'étais pas seul. Nous étions 200 dans le hall, dans l'entrée, devant les Bouffes du Nord, à attendre que ça commence quand tout d'un coup la voix d'Anne Alvaro parle à notre oreille. Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas et cette chose, moi, je peux vous la fournir. C'est le début du texte créé il y a 29 ans dans une mise en scène de Patrice Chéreau avec Laurent Mallet et Isaac de Bancolé dans la solitude de Champs de Coton de Bernard-Marie Coltès. Le dealer et le client ont depuis été joués par de nombreux binômes. Cette fois, Roland Osé a choisi deux femmes réunissant deux comédiennes magnifiques, intenses, Anne Alvaro donc et Audrey Bonnet.
Mon désir, s'il en est un. Si je vous l'exprimais, brûlerait votre visage, vous ferait retirer les mains avec un cri, et vous vous enfuiriez dans l'obscurité comme un chien qui court si vite qu'on n'en aperçoit pas la queue. Mais non, le trouble de ce lieu et de cette heure me fait oublier si j'ai jamais eu quelque désir que je pourrais me rappeler. Non, je n'en ai pas plus que d'offres à vous faire, et il va bien falloir que vous fassiez un écart pour que je n'en ai pas à faire. Que vous déménagiez de l'axe que je suivais, que vous vous annuliez, car cette lumière là-haut, en haut de l'immeuble, dont s'approche l'obscurité, continue imperturbablement de briller. Elle troue cette obscurité comme une allumette enflammée troue le chiffon qui prétend l'étouffer.
Vous avez raison de penser que je ne descends de nulle part et que je n'ai nulle intention de monter, mais vous auriez tort de croire que j'en éprouve du regret. J'évite les ascenseurs, comme un chien évite l'eau. Non pas qu'ils refusent de m'ouvrir leurs portes, ni que je répugne à m'y enfermer, mais les ascenseurs en mouvement me chatouillent, et j'y perds ma dignité. Et si j'aime être chatouillée, j'aime pouvoir ne plus l'être, dès que ma dignité l'exige. Il en est des ascenseurs comme de certaines drogues. Trop d'usage vous rend flottant. Jamais monté, jamais descendu, prenant des lignes courbes pour des lignes droites, et glaçant le feu en son centre. Pourtant, depuis le temps que je suis à cette place, je sais reconnaître les flammes qui, de loin, derrière les vitres, semblent glacées comme des crépuscules d'hiver, mais dont il suffit de s'approcher, doucement, peut-être affectueusement, pour se souvenir qu'il n'est point de lueur définitivement froide. Et mon but n'est pas de vous éteindre, mais de vous abriter du vent. Et de sécher l'humidité de l'heure à la chaleur de cette flamme.
Voilà pour cet extrait de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès, qu'on peut l'entendre au casque dans cette mise en scène de Roland Osé avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet, Anna Segalevitch, pour commencer.
Alors, comme vous le disiez, Arnaud, c'est vrai que ce sont deux grandes actrices et que C'est un grand plaisir de les entendre et de les voir. Comme on l'a entendu avec cet extrait, on entend très bien le texte. Ça, c'est clair que, voilà, on entend tout, on saisit vraiment toutes les subtilités, les détails et la finesse de ce texte vraiment magnifique de Coltès que j'ai eu, moi, beaucoup de joie à réentendre au Théâtre des Bouffes du Nord. Malgré toutes ces qualités, je dois dire que je suis partagée sur le spectacle. Voilà, moi, j'ai pas été totalement convaincue malgré toutes les qualités objectives du spectacle. Je n'ai pas été convaincue par le dispositif. Alors, après, il faut expliquer aux auditeurs que le spectacle a été créé l'année dernière dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. Donc, c'était une sorte de déambulation où les spectateurs se promenaient avec un casque sur les oreilles. Lors de la première au Théâtre des Bouffes du Nord, auquel vous avez assisté Arnaud et Joël, je crois, ça commençait dans la rue, ce spectacle. Et au bout d'un quart d'heure, vous étiez invité à rentrer dans le théâtre. Voilà. Bon, avec le plan l'état d'urgence, le plan Vigipérate, ça n'était pas possible lors de la deuxième à laquelle moi j'ai assisté. Donc, le spectacle a commencé dans le théâtre. Donc, de façon pas tout à fait conventionnelle, puisque les spectateurs étaient sur la scène et les actrices apparaissaient au premier balcon, l'une puis l'autre. Et là, je dois dire que je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant ce qui se passe parce que cette proximité de la voix avec le décalage de ses corps au lointain, ça donne une étrangeté, c'est troublant, il y a quelque chose, voilà, entre cette proximité et ce lointain. Et ça m'a plu. Au bout d'un quart d'heure, elles sont descendues, les ouvreuses ont levé donc le tulle des gradins du Théâtre des Bouffes du Nord et nous ont invités à nous asseoir. Et là, le spectacle est devenu finalement un spectacle, en tout cas dans le rapport acteur-spectateur, conventionnel, enfin classique, ce qui n'est pas un mal, hein. Mais l'étrangeté, la particularité en fait proposée par le rapport au casque et les corps des actrices, je trouve, ne jouait plus. Et à partir de ce moment-là, moi je dois dire que je n'ai plus trouvé de sens à ce dispositif. Et le fait que je ne trouve pas de sens et donc du coup de justesse, il m'est apparu comme artificiel. Et au lieu d'être dans l'intimité en fait des actrices, de par la proximité de leur voix, en fait, ça m'a surtout éloignée de leur corps. Et ça a mis en fait une sorte de filtre très épais et ça m'a mise vraiment à distance et ça m'a gênée pendant toute... J'ai été frustrée parce que je n'arrivais pas à les ressentir physiquement. Voilà, donc il y avait quelque chose de théoriquement juste, mais concrètement dans mon corps qui n'a pas totalement pris pour un premier regard.
Je reviendrai vers vous pour une première écoute et regard, vraiment, véritablement. Joël Gaillot.
Je partage cette remarque sur le dispositif. Encore que nous, vous et moi, Arnaud, nous avons donc eu la chance de le voir jouer sur le parvis du Théâtre du Nord, ce qui n'aura plus lieu, parce qu'effectivement, ils ont raté la deuxième, ils ne le referont pas à cause de Vigipirate. Et effectivement, après, on a vu un spectacle rapatrié dans l'enceinte du théâtre. Alors, ça crée forcément un sentiment de frustration, parce que dehors, il s'est passé quelque chose d'extrêmement fort.
Même de l'autre côté de la rue, voilà, avec côté du passage
en plus,
piéton,
un campement
loin.
À côté de personnes sous tente, enfin, tout ça rejoignait finalement une urbanité de la littérature de Coltès qui est réelle. Et on pouvait avoir le sentiment, effectivement, d'être d'un côté de la rue et que de l'autre côté, des gens, des passants étaient en train d'échanger entre eux et on avait accès à leurs pensées intimes. Donc, retour à l'intérieur du théâtre et premier sentiment de déception et de frustration qui en ce qui me concerne, a été extrêmement vite dépassé parce que je dois dire que j'ai assisté à un face-à-face entre deux comédiennes comme rarement j'en ai vu. Pour moi, c'est exceptionnel. Ce qui se joue entre Anne Alvaro et Audrey Bonnet est de l'ordre de l'inouï et du très rare. Et il y a deux choses, en fait, qui se passent. Il y a la première qui est que lorsqu'Audrey Bonnet parle, c'est Mozart qui entre en scène. C'est Mozart plus Beethoven plus Schubert plus Bach plus tous les grands, si vous voulez. C'est indépassable, c'est inatteignable. On n'y peut rien. Cette fille est un génie. Elle a, je ne sais pas comment, voilà, si est-ce que c'est d'être passée par Rambert qui l'a amenée à ce niveau-là d'excellence.
Elle
s'est perfectionnée.
Elle était géniale à la Comédie française déjà.
Elle a vraiment atteint un niveau d'excellence qui est incroyable. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que face à ce génie je le répète, je pense réellement presque inatteignable qu'est Audrey Bonnet. On a eu affaire à un autre génie, qui est celui d'Anne Alvaro, qui finalement, par sa façon de recevoir le talent d'Audrey Bonnet, et elle n'en est pas dépourvue, elle non plus, la preuve.
C'est sûr.
La preuve. Par sa façon d'accueillir cette hauteur de jeu, cette excellence, par sa façon de rendre les armes, d'une certaine manière, moi, il me semble que c'est ça qu'elle fait. Elle rend les armes et elle termine d'ailleurs à terre. En tout cas, le soir où on l'a vu, elle termine à terre. Manifeste qu'elle a, elle aussi, un génie incroyable. Il y avait dans la posture, dans le corps de Anne Alvaro, dans sa façon de laisser sa voix se fêler comme elle sait si bien le faire. Elle sait le faire et puis en même temps ça lui appartient, c'est intrinsèque à ce qu'elle est. Il y avait comme une preuve de, je sais pas, c'est peut-être pas un mot qu'il faut employer, mais presque comme une humilité, comme une reconnaissance de voilà, toi tu es en face de moi, j'entame avec toi un tango, un pas de deux, une danse du diable, c'est moi le dealer, c'est toi le client et c'est moi qui vais capituler, c'est moi qui vais terminer conquise, vaincue et presque soumise. Et là, je dis qu'on est devant deux comédiennes qui sont réellement exceptionnelles, et l'une et l'autre. C'est pour moi un immense moment théâtre de ce point de vue-là. Après, on peut critiquer la musique peut-être un peu trop présente, on peut critiquer effectivement ce désir de sortir dehors, rentrer à l'intérieur, mais il n'empêche, quoi. Toutes ces réserves sont balayées par... voilà, par le niveau de jeu et d'intelligence du jeu.
Alors moi, je vais abonder dans ce sens-là, en revenant sur un premier point qu'a cité Anna Segalevitch, c'est quel texte que dans les solitudes des champs de coton. C'est vrai qu'on a quand même mesuré la place de Coltès depuis un certain nombre d'années dans le théâtre français, mais là, en réentendant ce texte l'autre soir, je me suis dit que voilà, c'est un classique qui sera pour les siècles des siècles aux côtés de Racine, de Marivaux, de Molière, de Claudel. On a là un texte absolument essentiel du théâtre français, toutes époques confondues, me semble-t-il. Et si on l'entend si bien, évidemment, c'est à cause de ces deux immenses interprètes. Je ne vais pas rajouter au superlatif que je partage pleinement, que vous avez énoncé, Joëlle Gayot. Mais c'est vrai qu'elles sont tellement là, toutes les deux, tellement présentes, tellement intenses, c'est assez vertigineux. Je ne sais pas si c'est la maîtrise qui permet de lâcher prise, ou si c'est au contraire le lâcher prise qui atteint à la maîtrise, mais en tout cas, c'est quelque chose, effectivement, qui est tout à fait stupéfiant. Et c'est vrai qu'en même temps, ce texte-là, pour en avoir parlé avec l'une et l'autre des interprètes, il est d'une certaine infinie beauté, mais aussi d'une difficulté très particulière. Toutes deux me disaient que c'était vraiment qu'elles n'avaient jamais eu affaire à un texte pareil et une intensité pareille, mais c'est aussi le fait qu'elles jouent ensemble. Et c'est vrai que chaque phrase peut être entendue d'une façon et de tout à fait une autre façon. Il y a une polysémie de quasiment chaque mot ou chaque segment de phrase chez Coltès qui fait que cette relation dealer-vendeur, maître et esclave, quoi, enfin, cette dialectique-là, elle est présente à chaque phrase. Et ça aussi, c'est quand même une sensation vertigineuse, là encore, de se dire, mais voilà, les rôles sont éminemment réversibles, hein, qui vend quoi, qui achète quoi, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de désir entre ces deux êtres et entre tous les êtres. Alors là, on pourra sans doute disserter longtemps là-dessus, mais cela étant, moi, je défends la proposition et théoriquement et concrètement de Roland Ozet, même si je dois bien dire que au départ, qu'on a eu la chance, nous, de les voir dehors, Audrey Bonnet et Anne Alvaro, il y a quelque chose de... La ville est si forte que ça m'était un peu difficile d'entendre le texte, que j'ai beaucoup mieux entendu, je dois dire, une fois qu'on est rentré dans l'enceinte du théâtre, parce que c'est vrai que la bande-son de Paris, elle est quand même riche, les vivants de Paris sont quand même très présents, et si on garde le casque tout du long, vous l'avez évoqué à l'instant, Joël, c'est aussi parce que, c'est pas pour par préciosité, c'est parce qu'il y a un travail musical effectué en direct de bande-son qui sont mixés en binaural, avec donc une spatialisation très particulière du son. C'est la muse en circuit, hein, c'est vraiment quelque chose. Roland Ozet travaille avec cette structure depuis très longtemps. C'est une structure qui, depuis plus de 30 ans, vraiment propose des choses dans le cadre du théâtre musical, on va dire comme ça, pour aller vite, très précieux. Et moi, j'ai trouvé ce travail musical vraiment très riche, très précis, là aussi, parce que ça ne peut être fait qu'en direct. Et là aussi, c'est quand même un autre interprète. Et pour moi, ça concourt effectivement effectivement tout cela à faire un spectacle rare par sa qualité comme par son intensité. Donc le casque pour moi est non seulement un atout, mais il est une prolongation, une amplification de tout ce que j'ai pu ressentir intérieurement, parce qu'il y a ce non seulement les voix, mais ce travail musical moi auquel j'ai été très sensible. Alors, vous le trouviez trop présent, Joël, un peu ?
Moi, j'ai essayé d'enlever le casque quand j'étais dans la salle pour voir.
On l'a tous fait, je crois.
Et ça ne marche pas.
Non.
Mais parce que je pense qu'aussi, elles ont pris ce pli de parler parce qu'elles sont sonorisées et qu'elles savent qu'elles sont dans ce phrasé-là et cette élocution-là.
Et d'ailleurs, j'avais jamais entendu le grain de voix d'André Bonnet de cette façon-là. Parce qu'évidemment, elle projette normalement dans une même sonorisée, dans une sono classique, c'est pas la même voix, c'est pas la même musique que ça produit Mozart, Bach, Schubert, ils sont pas de la même façon.
Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le contraste et le relief aussi bien de sa voix à elle que de la voix d'Anna Alvaro.
Oui, bien sûr. Oui. Anna Alvaro, on la connaît au cinéma, donc on connaît mieux cette voix parlée, puis dire.
Moi, ce qui me plaisait en extérieur, et c'est pour ça que j'aurais aimé que ça puisse être tenu jusqu'au bout, c'est que oui, il y avait le bruit de la ville, oui, il y avait les voitures qui passaient, oui, on avait aussi du mal à voir parce que finalement, elles étaient sur un tout petit parvis et on était tous massés, donc il fallait un peu se contorsionner pour les apercevoir, mais ça accédait tout à coup, cette écriture coltésienne, enfin ce texte et le propos de ce texte, c'est un dealer et son client, on imagine qu'ils se rencontrent au coin d'une rue, et on sait que Coltès fréquentait des endroits malfamés, on imagine tout à coup, effectivement, une forme de réel autour de quelque chose qui est pure fiction. Et l'autre chose qui m'a beaucoup plu dans ce parti pris de diriger deux femmes, et c'est la première fois à ma connaissance que ça a lieu, c'est que ça rend effectivement, ça permet à l'écriture de Coltès d'échapper au genre, que finalement, que ce soit dit par des hommes, que ce soit dit par des femmes.
Oui, parce qu'on n'a pas touché au texte, c'est au masculin. Mais
on s'éloigne tellement de Coltès, qui en voulait tellement à Chiraud d'avoir joué lui-même
le rôle du dealer,
je crois.
Qui doit être noir, oui, absolument.
Alors que c'est, voilà,
dans le texte
écrit pour
et dans les volontés de Coltès.
Et là, bon, on en est à des femmes, donc la trahison par rapport à Coltès est totale, mais ça veut dire aussi que cette écriture, c'est ce que vous disiez Arnaud, elle est non seulement universelle, mais elle n'est pas genrée, elle n'est pas sexuée, encore une fois. Enfin,
c'est pour ça qu'elle restera.
Et donc oui, elle va rester. Elle va rester.
Anna Segalevitch.
Bon, pardon, hein, moi je vais encore émettre des réserves,
mais
quand vous parlez, Joël, de réel autour de la fiction...
Je parle du fait que ça a joué dans la rue. Hein.
Mais oui,
c'est
justement,
ce moment-là,
mais je comprends, justement. Mais moi, je n'ai ressenti de la fiction dans la fiction, vous voyez. C'est-à-dire une surenchère, finalement. Et quelque part, il y a presque un pléonasme pour moi, en fait, dans ce dispositif, dans le cadre de dans le contexte du théâtre, voilà, du rapport normal du théâtre. Et alors, ce qui me semble, c'est que... Ce que ça met très bien en lumière, en fait, le dispositif de Roland Ozé, c'est effectivement la solitude des personnages. Voilà, ça, on la ressent comme très rarement, vraiment. On les voit, en plus, elles sont sur des pistes différentes, donc en termes de son, de sophistication, c'est vraiment très, très intéressant parce que on entend, et la quête de soi qu'on entend vraiment, on les sent rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, et ça, c'est très beau. Mais il me semble que le texte, c'est ça, mais c'est aussi la quête de l'autre. C'est la quête de soi et la quête de l'autre. Et ça, je n'ai pas réussi à la saisir. La quête de l'autre, le désir qui est très, très, très importante, la violence dans les rapports, la sauvagerie. Et honnêtement, enfin, je veux dire, moi, j'ai passé mon temps comme vous à essayer à enlever le casque, et par moments, je l'ai enlevé assez longtemps, en fait. Parce que sinon, je n'arrivais pas à comprendre où j'étais et à ressentir les énergies des actrices. Parce qu'en plus, le dispositif sonore, qui est très sophistiqué, vraiment, c'est une partition extrêmement construite qui commence avec de la musique électro, puis il y a du piano qui arrive sur le texte d'Audrey Bonnet, on a des cordes qui sont frottées, enfin, c'est hyper rythmique, très percussif, enfin, c'est une architecture, vraiment, c'est très construit dramatiquement. Et donc, du coup, là aussi, quelque part, ça enlève, je trouve, l'énergie des corps. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est pourquoi pas. Dans ce contexte, ça n'a pas, opéré
marché,
pour moi.
Ça a opéré pour nous, Joël, le confirmez.
Oui, mais ça a plus qu'opéré, oui, oui. Moi, j'aimerais beaucoup le revoir. Je n'aime pas revoir les spectacles que j'ai aimés, mais celui-là,
c'est
vraiment, j'aimerais
dangereux.
Beaucoup le revoir. Oui, c'est toujours dangereux. Et celui-là, je pense qu'il n'y a aucun risque à revenir le voir.
Oui, je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, j'ai envie de le réessayer à nouveau.
Et totalement à l'intérieur, puisque du coup, là, c'est fini, l'extérieur. Donc, pour voir si justement, vraiment...
D'autres lieux, moi j'aime
cette, une fois partie cette frustration, ça ne sera plus que de la dithyrambe.
Oui, mais j'aimerais bien voir ça dans une grande friche, dans un lieu vraiment désert, comme, oui, comme celui au Sla. Enfin, le centre commercial La Part-Dieu, je trouve que c'était une très belle idée, même si c'est un... parce que c'est quand même un lieu de passage, c'est pas un lieu fermé, la nuit c'est comme une rue. Hein. Si on mettait ça sous le 104, par exemple, dans la rue du 104, enfin vous voyez, il y a des lieux
dans
qui pourraient...
Dans le commercial qui va à Créteil, hein, la oui, longue galerie commerciale qui va à Créteil.
Voilà, il y a des lieux peut-être autres, Créteil, mais bon, pour l'instant, et rendons grâce au Bouffe du Nord, hein, qui est coproducteur de spectacle, sauf erreur, c'est au Bouffe du Nord, jusqu'au fin février, dans la société des Champs de Coton, de Bernard Michael Test, mise en scène Roland Osé avec Anna Verro et Audrey Bonnet. Il y aura deux dates, 28-29 avril à Tandem, scène nationale d'Arras, et puis une tournée qu'on espère longue, qu'on espère belle et qu'on espère dans des lieux très divers la saison prochaine.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Avant de parler des chatouilles, le spectacle d'André Abescon, mis en scène par Eric Métayer, nous retrouverons l'invité de la dispute, le comédien et cinéaste Charounas Bartas. Nous évoquerons aussi les territoires, nous sifflerons la Marseillaise et, j'ai oublié le titre, les lettres persanes, d'après Montesquieu, c'était l'étoile du Nord. Avant cela, ce qu'on va ouvrir au présent, c'est la séquence de la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute par Antoine Guillot. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. En annonçant la nomination d'Aurélie Dupont à partir de la mi-septembre comme directrice de la danse de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, son directeur, coupe court à un changement qui s'est fait dans une certaine précipitation, estime Ariane Bavelier dans le Figaro. Manque de soutien de Lissner, fatigué d'un directeur du ballet qui voulait aller plus vite que la musique de la vieille dame opéra, lassitude du bouillant mille pieds devant la grogne des syndicats cas de danseurs de quelques étoiles qui n'avaient pas le bonheur d'être distribués au premier plan. Une grogne renouvelée à chaque réforme, à chaque distribution d'un jeune, à chaque propos sincère, mais pas forcément politique de mille pieds. Une grogne savamment entretenue par les anciens, inquiets de voir leur maison changer. L'opéra est le seul endroit où la poussière se transforme en béton, disait déjà Jean Cocteau. Toujours est-il qu'on a l'impression que la bataille n'a pas vraiment été menée dans une compagnie de 150 danseurs. Aucun directeur ne fait l'unanimité, surtout s'il ose parler de changement et ne vient pas du sérail. Le même ballet qui alignait les jours de grève, du temps de Nourrieff, le canonisait dès son départ. Roland Petit a tenu 6 mois, Claude Bessy encore moins. Avec mille pieds, le ballet ne s'est jamais mis en grève et combien de nouvelles voies ont été ouvertes en quelques mois. Benjamin est resté trop peu de temps, mais d'autres sont restés trop longtemps, a conclu le directeur de l'Opéra. Depuis quelque temps déjà, rapporte Rosita Boisseau dans Le Monde, la rumeur rapportait que l'ambiance était loin d'être au beau fixe dans la compagnie. Le documentaire Relève, consacré à mille pieds et aux répétitions de son ballet Clear Loud Bright Forward, projeté le 25 novembre 2015 en avant-première puis diffusé le 23 décembre sur Canal+, avait choqué certains danseurs. Benjamin Millepied y assénait entre autres à propos du ballet, l'une des meilleures troupes au monde. C'est quoi l'excellence de l'opéra exactement? Je ne suis pas encore satisfait de la façon dont ça danse en scène, l'excellence, j'attends de la voir pour de vrai. Il concluait que la compagnie n'est pas la meilleure troupe classique, mais la meilleure en danse contemporaine. Le 18 décembre, dans le Figaro, Benjamin Millepied poursuivait ses critiques pour évoquer le tableau des ombres dans le ballet La Bayadère à l'affiche de l'Opéra Bastille du 17 novembre au 31 décembre. Il disait ainsi « Être danseur, c'est s'exprimer, pas tenter de ressembler à un motif sur du papier peint. » Il pointait aussi que dans la troupe, le vrai problème à résoudre est celui de l'assiduité au cours, 5 fois par semaine, pas 2 ou 3 fois, sinon le corps résiste, se blesse. Il recommandait encore aux jeunes danseurs d'avoir un sens entrepreneurial, de savoir trouver des fonds ou gérer une carrière avec par exemple les réseaux sociaux, de quoi attiser la colère parmi les interprètes. J'ai été choqué par cet article dévastateur, par l'irrespect de Benjamin Millepied vis-à-vis de la compagnie qu'il dénigre totalement, commente dans Le Monde le danseur étoile Karl Paquette. Je danse depuis 30 ans dans la maison, j'adore cet opéra de Paris, je ne m'y suis jamais senti aussi mal que depuis 6 mois. J'ai par ailleurs vécu la fin de cet article comme une annonce potentielle de son départ. De fait, Millepied disait « Si je n'y arrive pas ici, je le ferai ailleurs. Et pourtant, comme le remarque Martine Robert dans Les Échos, le directeur de cette grande maison, Stéphane Lissner, défendait encore officiellement son protégé il y a quelques jours. Logique, cette erreur de casting est la sienne, donc impossible de se désavouer. Dès le départ, les dés étaient pipés. Pour le faire venir, Lissner lui a promis monts et merveilles et occulté la complexité du poste de directeur de ballet. Le choix a été fait d'être dans le show-off. Pourtant, la star ne doit pas être Benjamin Millepied, mais le ballet de l'Opéra de Paris, souligne un observateur qui souhaite garder l'anonymat, et d'ajouter « Benjamin ne dirigeait auparavant qu'un modeste collectif de danseurs, il n'avait aucune expérience d'une institution publique française de cette taille, avec ses lourdeurs, ni de la gestion d'une compagnie de 150 danseurs, il ne s'agit pas seulement de créer des chorégraphies, loin de là ». Le patron de l'Opéra de Paris a eu beau promettre à Benjamin Millepied la nomination d'un nouvel administrateur, de réorganiser l'équipe autour de lui pour le soulager, le verre était dans le fruit. À quelques jours de la générale de sa nouvelle chorégraphie, le danseur était loin, très loin, en Californie, au lieu d'assister aux dernières répétitions. À Garnier, on a coutume de dire depuis longtemps déjà, si tu veux parler à Benjamin, laisse-lui un message sur Facebook, révèle une employée des lieux. Accro d'Instagram, Facebook, Twitter, le chorégraphe a montré plus d'enthousiasme pour tourner des petits films destinés à alimenter la troisième scène numérique de l'Opéra de Paris qu'à manager le ballet, parvenant en revanche à dresser et toi les jeunes danseurs les uns contre les autres. La rancune est d'autant plus forte, note Guillaume Thion dans Libération, que les danseurs apprécient volontiers le côté briseur de code de Millepied. Nous sommes dans un système mis en place depuis plus d'un siècle, dit un danseur. Beaucoup de choses ont besoin de changer, mais la manière dont Millepied l'a dit et défendu manquait beaucoup de nuances. Il avait l'art, pas la manière. Millepied, son aura glamour, son travail de chorégraphe plébiscité, la façon dont il attirait les projecteurs et les mécènes jusqu'à être la star d'un ballet où il ne dansait pas, était l'atout de la politique moderniste lancée par le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner. À Garnier, ce jeudi, c'est une dédramatisation en règle qui a été proposée sur le thème « Que peut-on faire contre quelqu'un qui a envie de partir pour créer ?» Avec Aurélie Dupont, nous avons choisi la continuité. En sous-texte, la nouvelle directrice de la danse a surtout précisé qu'elle serait tout ce que Millepied n'était pas, une fan de ballet classique qui ne fera pas de chorégraphie et qui prendra soin d'apprivoiser cette vieille dame qu'est l'Opéra de Paris. « C'est ma maison », a-t-elle dit, « il faut la respecter ».
Merci Antoine Guillaume. Bon, on n'a pas vraiment le temps ce soir de commenter. J'envoie nos auditeurs à la dispute du 31 décembre où nous parlions de la troisième scène. Vous étiez là, Anna Sigalevitch, avec Emmanuel Giuliani. On y parlait très librement de Benjamin Millepied. Je renvoie nos auditeurs au podcast ou à la réécoute. Hein, c'est le plus simple.
Oui, juste peut-être dire que moi personnellement, je me réjouis de l'arrivée d'Aurélie Dupont à la tête de... Voilà, de la direction de la danse, parce que je trouve qu'elle incarne l'opéra dans ce qu'il a de plus beau, de plus noble. C'est à la fois une merveilleuse danseuse classique, très grande interprète contemporain, et elle a un discours sur la danse. Elle parle très bien de son métier, et tout ce qu'elle a dit à la conférence de presse m'a, moi, donné très envie et vraiment confiance. Donc voilà, je suis très heureuse qu'elle ait été nommée.
Saluons son arrivée, je partage tout à fait votre point de vue, Anna. Quelques recommandations rapides, Joël Gaillot.
Oui, je voulais vous parler d'un spectacle que j'ai vu à Théâtre Ouvert, qui se joue encore jusqu'au 19 février, des territoires, entre parenthèses, nous sifflerons la Marseillaise. C'est un spectacle de Baptiste Aman, qui fait partie du collectif Irmar, dont on avait déjà vu plusieurs créations à Gennevilliers, notamment, et au Théâtre de Vanves. C'est un spectacle qui m'a frappée par sa très vivante originalité, son côté extrêmement incisif, singulier, personnel, et son caractère complètement imprévisible et aléatoire. C'est en gros l'histoire de quatre enfants qui sont quatre jeunes adultes dont les parents viennent de mourir. Ils habitent ce qu'on imagine être une sorte de pavillon de banlieue perdu au milieu peut-être de barres d'immeubles, et se posent à eux les questions de voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, que fait-on de la maison, est-ce qu'on la vend et qu'est-ce qu'on fait de nous. Et donc évidemment toutes sortes de dissensions apparaissent entre eux. Parmi eux il y a un des frères qui a eu un accident et qui depuis est un peu attardé mental. On dit de lui souvent il est mongolien, et la sœur s'insurge en disant non, il n'est pas mongolien. C'est un spectacle qui est très étonnant parce qu'on ne sait absolument jamais ni ce qui va être dit, ni comment ça va être dit. On ne peut rien prévoir, on ne peut rien anticiper. C'est une façon qu'a Baptiste Aman de tenir le spectateur en alerte, en permanence, en éveil, et de faire preuve, en plus d'une écriture qui est totalement sans tabou. Il va gratter sur des thèmes qui ne sont pas faciles, effectivement, comme le retard mental. Il a un imaginaire d'auteur que je trouve tout à fait réjouissant. C'est parfois pas très bien joué, mais ça n'est pas grave, parce que c'est vraiment un spectacle fait par une jeune génération qui ne cherche pas à imiter les anciens. Et voilà, qui trouve sa voix et qui va, à mon avis, continuer à la trouver de manière assez belle.
Des territoires, nous sifflerons la Marseillaise de et mise en scène Baptiste Amann. C'est jusqu'au 19 février à Théâtre au Vert. Une annonce, Anna Segalevitch ?
Oui, une annonce. Les lettres persanes de Montesquieu. Adapté et mise en scène par Guillaume Claessen jusqu'au 13 février à l'Étoile du Nord. Et qui est un roman épistolaire qui raconte le voyage en Europe de Ouzbek Erika. Et Guillaume Claessen cherche à mettre en regard vraiment le malaise entre les civilisations du 18e et à interroger notre époque. Donc il y a ces lettres persanes et il y a entre les lettres des improvisations écrites. Il cherche vraiment à faire dialoguer les époques et à interroger aujourd'hui à travers le passé. C'est un spectacle qui est assez audacieux formellement, qui a une vraie singularité et je pense que c'est intéressant de découvrir son travail. C'est jusqu'au 13 février à l'Étoile du Nord.
Les lettres persanes, merci. Dans quelques minutes, on va s'intéresser au spectacle écrit et interprété par Andrea Bescon, Les Chatouilles ou La Danse de la Colère. Avant cela, il est temps de retrouver l'invité de la dispute, Jaronas Bartas, dont on peut retrouver la riche actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Comment allez-vous ? Très bien, merci.
Nous passons cette semaine, c'est une grande joie avec Jaronas Bartas et Elvieta Yosadeh qui va assurer la traduction de nos entretiens. On commence évidemment par le spectacle vivant et c'est dans les autres domaines, j'ai quelques idées peut-être de vos rapports aux arts, je ne sais pas. Jaronas Bartas, si vous allez voir du théâtre, de la danse, de l'opéra, est-ce que vous avez un rapport avec le spectacle vivant ?
Na, iš tikrųjų, tai scenos menas, kaip jeigu kalbėt apie teatrą, tai...
En fait, le spectacle vivant...
Aš kaip tik kaip ir pradėjau... Nu,
si on parle du théâtre aussi...
Lankymasi, nes mano mama įdavo į teatrą labai dažnai...
J'ai justement commencé par là, parce que ma mère se rendait souvent au théâtre, c'était dans la ville de Kaunas.
Ir kai buvau tikrai jaunas, gal kokių 16 ar 17 metų.
Et quand j'étais tout jeune, quand j'avais 16 ou 17 ans.
Tikrai įdomi teatrą, jis buvo svarbus.
Nous allions au théâtre et c'était important pour nous.
Ypatingai gerai atsimenu Vaitkaus, Jono Vaitkaus spektaklus.
Je me rappelle surtout très bien des spectacles de Jonas Vaitkaus au théâtre de dramatique de Kaunas.
Esu įlindęs ir paprašęs atsitiktinai aktorius pamatyto, pravesti mane pravedė. Paskui
une fois j'ai demandé à un acteur de me laisser passer et il y a eu un vrai scandale. Heureusement, ils ne m'ont pas jeté du théâtre, mais c'était un vrai scandale.
Šiaip metodiškai po to jau buvo visas kitas atsitiktiniai dalykai, nes
Après, c'était plus une question de hasard.
Šokis yra kaip...
Par exemple, la danse.
Mažai ką galiu apie tai pasakyti.
Je ne peux pas en dire grand-chose.
Judesis yra įdomus dalykas.
Le mouvement est une chose vraiment intéressante.
Apskritai, žmogaus judesis yra sumatęs tokių...
Le mouvement d'un être humain.
Spektaklių.
J'ai déjà vu des spectacles.
Bet tikrai nesu metodiškai kažkaip išprusęs tame ir
mais je ne me suis jamais intéressé de manière méthodique à cet art et je n'ai jamais cherché exprès à voir un spectacle de danse.
Mais si vous avez vu du théâtre très jeune, on dit toujours quand on parle de vous que c'est le cinéma et on en parlera demain qui vous a attrapé très jeune. Le théâtre, c'était pas du tout une option pour vous ? Ça ne peut pas en être une aujourd'hui ? C'est pas un moyen d'expression que vous pourriez envisager ?
Na, čia toks klausimas visai gali būti. Tik tiesiog,
c'est une question intéressante. Oui, c'est possible.
Tiesiog visgi, tai yra ne mano profesija.
Mais il faut dire que ce n'est pas mon métier.
O kinas jau tapo būtinybė.
Alors que le cinéma est devenu comme une nécessité. Et cela s'est passé à peu près au même moment.
Ir, kadangi nieko teatre nestačiau, esu dirbęs su teatro studentais ir taip toliau, bet...
Comme je n'ai jamais rien mis en scène, bien sûr, j'ai travaillé avec des acteurs de théâtre pour mes films.
Tai nežinau, ar verta man staiga dabar lysti nei savo daržą.
Donc je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup pour moi maintenant de m'introduire dans un domaine qui n'est pas le mien.
Il y a pourtant au théâtre Sharonaz Martas un rapport au temps, à l'espace, au silence qui pourrait vous intéresser. Certains metteurs en scène contemporains travaillent ces dimensions-là.
Taip, žinau, tiesiog...
Oui, c'est vrai.
Na, aš gal ne šiuolaikinis pradžiai pasakysiu, bet...
Peut-être que d'abord je pourrais dire que je suis pas si contemporain que ça.
Kitas dalykas yra, kad teatras vis tik ten yra, aš esu labai smarkiai susietas su ta gyvybė.
Je suis très fortement lié avec ce vivant. Tiksiu
sakant, realybė. Teatre labai nemažai dalykų yra.
Si je peux exprimer plus justement la réalité.
Iš vienos pusės, iš tikrųjų...
Je suis lié avec la réalité. Dans le théâtre...
Galim būtų pasakyti, kad net gyvesni, nes jie...
Parfois, oui, les choses sont même plus vivantes, parce qu'on peut pas les répéter, on peut pas les regarder, les visionner une deuxième fois. Et donc, à chaque fois, c'est un peu différent.
Iš kitos pusės, ten yra sąlyginumo labai daug ir tai...
Mais en même temps, tout ça est assez relatif.
Galvojau apie vieną pastatymą ir ilgai galvojau labai ir taip ir iki galo nenusprendžiau.
J'ai pensé pendant très longtemps à une mise en scène en particulier. J'ai vraiment réfléchi, mais je me suis jamais vraiment décidé.
Arba man turėčiau aš tiesiog kažkaip galbūt subręsti tokiam dalykui.
Peut-être que je devrais être plus mature en fait. Peut-être que je suis pas assez mature encore pour ça. Je ressens une sorte de claustrophobie à m'y mettre.
Bet kuriuo atveju greičiausiai tai būtų vis tik tai vos nemėgėjiškas dalykas.
Dans tous les cas, je pense que ça serait presque de l'amateurisme.
Žmogus reikia nemažai dirbs, kad visgi...
Parce que l'homme doit quand même travailler pas mal pour arriver à quelque chose. C'est pareil dans le cinéma ou dans le théâtre. Ce n'est pas juste une utilisation...
Kažkuo tai nenaudojimas.
De certaines conditions.
Turi turėti savo labai gilias ištakas viduje.
Tout ça a des sources très profondes.
Reikia turėti kuo remtis ir niekada...
Avoir des points de référence.
Nepamesi.
Et savoir que tu ne le lâcheras pas pendant le processus de création.
Reikia būti pripratusiam prie to proceso.
Faut être habitué à ce processus.
Mokėti valdyti, na, žodžiu,
savoir comment le contrôler, donc il y a plein de choses comme ça.
Kurios aš mažai ką žinau.
Et je ne les connais pas bien.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant en nous rendant au petit Montparnasse pour y découvrir un spectacle qui avait alimenté le bouche à oreille dans le Off d'Avignon. Elle était 2014, il s'agit de Les Chatouilles ou La Danse de la Colère, une pièce écrite et interprétée par Andrea Bescon dans une mise en scène d'Éric Métayer. Le spectacle, que je n'ai pas encore vu, est ainsi présenté. L'histoire insolite d'Odette, une jeune danseuse dont l'enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. À travers une galerie de personnages entre rire et émotion, les mots et la danse s'entremêlent et permettent à Andrea Bescon de transporter le spectateur dans un grand huit émotionnel dont il ne sortira pas indemne.
Allô Lionel ? Aziz ? Cédric ? Cédric, c'est ça ? On est ensemble, hein ? Ah ouais, cool. Je t'appelle parce que tu sais, on est dans la tournée de la comédie musicale, là, et puis là, on est dans un hôtel miteux, je sais pas dans quelle ville, et ce serait vraiment gentil si tu venais me chercher... Ouais, mais je comprends pas. Écoute, c'est pourri. Il y a des posters de Michael Jackson au mur, il y a des trous dans la moquette. Le dessus de couette, c'est Madonna. Je te jure, on a touché le fond, quoi. Ouais. Ouais, je t'appelle d'un fixe parce que j'ai perdu mon portable dans la boîte de nuit, c'est pour ça. Voilà, du coup, si tu regardes le numéro du fixe, bah, tu pourras connaître l'adresse et tu viens me chercher. Ouais. Cool. Quoi ? C'est mon numéro ? Ah, je suis chez moi, là ? Ah putain, c'est moche chez moi. Lionel ? Aziz ? Cédric ? Ouais, tu viens me chercher, tu sais où j'habite, hein, t'es déjà venu ? Allô ? Allô ? Excusez-moi docteur, excusez-moi, j'aurais jamais dû craquer, pardon. Reprenez votre fauteuil, c'était totalement absurde, excusez-moi, vraiment.
maintenant. Enfin, je sais pas, mais là, je trouve qu'on atteint des sommets. Ah non, mais attention, Odette, parce que bientôt, tu vas témoigner dans Confession intime. Hein. Ah non, non, c'est très grave. Vous savez, docteur, là, cette histoire de toxicomanie, d'alcoolisme, tout ça, ça, ça vient de son père. Hein. Ça, c'est Woodstock, mai 68, tout ça, tout ça. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, je peux vous le garantir. Hein.
Les chatouilles, la danse de la colère, Joël Gaillot.
J'ai été extrêmement touchée par ce spectacle, où je me rendais pas avec ni une attente particulière, ni d'a priori particulier non plus. Je suis sortie de là assez bouleversée par à la fois la comédienne, ce qu'elle est capable de faire, l'histoire qu'elle raconte, et le travail inouï qu'elle fait sur la scène. Alors c'est Andrea Bascon qui a écrit et qui joue, elle est mise en scène par Éric Métayer, qui je crois est un maître dans l'art de la métamorphose, donc c'est un seul en scène, et elle passe d'un personnage à un autre, avec absolument aucun accessoire. Et donc l'histoire qu'elle raconte, c'est celle d'une petite fille qui a été violée par un pédophile et dont toute la vie va être, voilà, ne va être que dommages collatéraux. Et elle ressuscite certains des témoins et des protagonistes de cette histoire, donc le fameux pédophile, sa mère, une psy qui la plupart qui est d'ailleurs muette mais qui est là présente. Une professeure de danse, des amis, enfin voilà, il y a toute une galerie de personnages qui passent par la scène. Elle danse parce qu'elle est danseuse de formation, c'est une comédienne récente, hein, Andrea Bascon, elle joue depuis 5 ans environ. D'ailleurs, quand elle a joué pour la première fois dans un spectacle qui s'appelait Les 39 Marches, elle a eu le Molière de la Révélation en comédienne. Et elle a un aplomb incroyable, mais aussi quelque chose de terriblement émouvant. C'est-à-dire que elle n'est jamais dans le compassionnel, elle n'est jamais dans le pathos. Elle raconte ce drame, cette tragédie qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne croit, avec énormément de justesse. Elle retrace comme ça des scènes dont on sent que ce n'est pas à côté. C'est sans doute probablement ça qui a pu se passer ou qui doit se passer pour certains. Et la narratrice est quelqu'un qui est extrêmement combatif dans cet spectacle, qui à la fois attrape à un moment aux tripes, mais réellement, mais parce que ce sont des dizaines de mondes qu'elle fait apparaître à travers toutes ces séquences. Le film n'est pas forcément chronologique, il l'est plus ou moins, mais pas complètement non plus. Mais ce sont des dizaines de mondes qui à chaque fois apparaissent, ils sont tous criants de vérité, et on finit par être mais emporté. On est comme devant un film, un polar, on se demande comment ça va se terminer, où va finir cette narratrice, Odette, est-ce qu'elle va finir dans le mur ou est-ce qu'elle va s'en sortir? Et voilà, moi j'étais, c'est vrai, mais vraiment atteinte, heureuse, et d'autant plus heureuse que c'est le Petit Montparnasse, pas forcément un théâtre où je vais beaucoup. J'avais vu Urgence là-bas, mise en scène par Zabou Bretman.
Ça s'appelait Des gens, le spectacle.
Et c'est absolument délicieux de découvrir quelqu'un qui avait une raison de faire ça, une nécessité, et qui l'a fait extrêmement bien.
Anna Segalevitch.
Moi aussi, ce spectacle m'a plu. Et cette jeune femme m'a beaucoup plu aussi. J'ai vraiment aimé son énergie, sa vitalité et sa présence en scène, qui est une présence qui est franche. Il n'y a pas de mystère, hein. Dès le départ, on sait où on est. Voilà. On va parler de pédophilie. On la voit danser un petit peu au départ. Elle est de dos assise, puis elle entame une danse assez saccadée. Et puis tout de suite, elle est donc elle, Odette, 8 ans, avec Gilbert, l'ami de la famille, qui lui propose d'aller dans la salle de bain pour s'occuper un peu d'elle.
Et lui faire des chatouilles.
Voilà. Mmh. Donc c'est très clair dès le départ. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré... Enfin, c'est quand même un sujet qui est très délicat, qui pourrait être très touchy, extrêmement, extrêmement pathos. Et ce qu'elle fait, c'est qu'on est toujours du côté de la fiction, en fait. On se pose pas la question de, attention, est-ce que c'est son histoire, est-ce que c'est pas son histoire? Non, c'est pas la question. Et on n'a jamais le sentiment qu'elle fait sa psychanalyse en scène. Voilà, parce que ça pourrait être une chose pénible. Et en fait, elle évite beaucoup d'écueils. C'est-à-dire qu'elle évite l'écueil du pathos, tout en étant vraiment aussi dans une forme d'émotion, parce que le fait de se draper dans une forme de dignité anti-pathos serait tout aussi énervante à mon sens que du pathos. Donc là non, il y a des vrais moments d'émotion, il y a des moments qui sont durs, il y a des moments qui sont violents, il y a aussi beaucoup d'autodérision. Ça, c'est, je trouve que c'est très important dans le spectacle, et elle a un talent. Je veux dire, elle croque les personnages qu'elle nous raconte avec beaucoup 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 de drôlerie. Je vais raconter juste une petite une séquence qui m'a beaucoup beaucoup plu. Donc elle est au CNSM, elle va mal au Conservatoire National Supérieur de danse et de musique elle va mal. Elle est à l'atelier création et là donc elle improvise une danse de la souffrance hyper douloureuse, etc. Donc elle sort des choses d'elle, on se dit waouh, c'est super, elle expulse quelque chose et la prof la comprend, elle dit bravo Odette, elle applaudit, c'est merveilleux, bravo, on se dit ah c'est génial, elle va trouver quelqu'un qui la comprend, avec qui elle va pouvoir parler, et là la prof lui dit c'est la Shoah. Tu es juive, Odette. Et donc elle dit bah non, je suis pas juive. Mais si tu es juive, bah non, je suis bretonne. Ah, tu es juive bretonne, c'est terrible.
Etc. Les bretons aussi sont restés peu nombreux.
Voilà,
il n'en est pas resté beaucoup.
C'est ça. Et c'est là, alors. Et je trouve que ça représente bien le spectacle parce que donc il y a la tragédie de quelqu'un sur laquelle quelqu'un d'autre plaque une autre tragédie et en fait personne ne l'aide à sortir de son truc parce que il y a une forme de déni de la souffrance réelle qu'elle a vécue et tout le spectacle est comme ça. Il y a la vieille prof de danse qui est à mourir de rire, c'est vraiment hilarant la façon dont elle croque cette vieille dame de qui doit avoir je sais pas 60 ou 70 ans, qui est complètement dépassée par la horde d'enfants dont elle doit s'occuper, qui est totalement au bout du rouleau. C'est très amusant. Il y a son ami Manu qui est très bien, c'est un moment très beau je trouve dans le spectacle, qui est un fumeur de joint paumé et qui donc elle se plaint, elle va mal, etc. Puis à un moment il lui dit mais écoute merde, toi tu oui ok t'as vécu quelque chose de très douloureux, mais en même temps tu fais le tour du monde, tu vis de ta passion, moi j'ai aucune perspective et ma vie c'est de la merde. Et ça aussi ça déplace les choses du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a pas de complaisance, mais en même temps elle traite vraiment le sujet qu'elle convoque en scène. C'est un spectacle très réussi.
Joël Gaillot.
Mais il faut dire aussi que cette narratrice a la rage. Elle a la rage de s'extirper de ce cauchemar. Donc ça la tient debout, ça la tient campée, ça la fait avancer. Il y a aussi des scènes avec la mère qui sont assez cocasses, où on vient de l'entendre, là, la mère qui rejette complètement, qui est dans le déni absolu, qui est sourde absolument à cette histoire. Mais c'est aussi, enfin moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'actrice. Enfin, c'est ce que vous dites, Anna. C'est-à-dire, elle est vraiment tout en rupture. En permanence, elle sait exactement à quel moment elle doit arrêter un personnage pour passer à un autre. Elle sait aussi à quel moment elle doit danser et quand la danse vient prendre le relais aussi, quand la parole n'est plus assez, ne peut plus porter, la danse vient prendre le relais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'humour, qu'il y a beaucoup de distance, que c'est punchy, c'est quelque chose de galvanisant. Et à la fin, elle vient saluer et là, on sent quelqu'un qui a donné énormément. Et les saluts qu'elle fait, je vous assure, moi, j'ai jamais vu quelqu'un saluer de cette manière-là. Elle vient saluer, elle vient rendre au public ce que le public lui a donné. C'est très clair. Mmh. Elle vient restituer au public ce que le public lui a donné pendant l'heure et 15 qu'on passe avec elle. Et il y a eu un échange qui n'a cessé de croître entre elle et les spectateurs. Et c'est ça qui, à la fin, se manifeste. Elle est réellement bouleversante. Enfin, très drôle et très bouleversante. Elle est dans cet équilibre-là.
Dernier mot d'Anna Sekulevitch.
Et elle le fait de façon très saine, sans jamais prendre en otage en fait les spectateurs, ce qui n'est pas simple avec un sujet aussi délicat.
Parce qu'il n'y a pas de pathos.
Où il n'y a pas de pathos parce qu'elle est saine. On peut dire les choses dans les deux sens.
Bon, mais vous êtes d'accord. Pour autant, sur les chatouilles et la danse de la colère que vous nous recommandez, cette pièce d'Andrea Bescon jouée par son auteur, mise en scène, et ce n'est pas rien, évidemment, par Eric Métayer, c'est jusqu'au 27 février au Petit Montparnasse.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Adeline Rosenstein, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu de vendredi soir, Antoine Guillot.
Qui a dû faire quelques heureux, puisque nos auditeurs ont gagné le coffret DVD de Heimat 1, une chronique allemande d'Edgar Reitz, distribuée par Potemkin. Je vous avais demandé quelle chaîne de télévision française avait diffusé la série Heimat de janvier à avril 1987. Eh bien, c'était TF1, oui, dans ses derniers feux de chaîne publique avant sa privatisation.
Nous faisons gagner ce soir des invitations pour l'illusion comique. Corneille, mise en scène par Vincent Tavernier. C'est au théâtre Montansier à Versailles. Les places sont à gagner pour la représentation de jeudi soir, 11 février, à 20h30, en répondant à quelles questions, Antoine?
Quel personnage de soldat fanfaron issu de la Commedia dell'arte retrouve-t-on dans cette pièce de Corneille?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à Auditeur FC, singulier, puis FC comme France Culture, auditeur FC at radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello.
Et ce soir, j'appelle Adeline Rodenstein pour décrire Ravage, qui sera présenté les 11, 12 et 13 février au Centre culturel André Malraux, scène nationale de Vendeuvre les Nancy, puis ce sera le 26 février au Théâtre du Point du Jour à Lyon, du 31 mars au 3 avril au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. C'est la poursuite d'un travail entamé dès 1998 avec deux premiers épisodes. Qu'est-ce qui a initié ce projet, Adeline Rodenstein ?
Alors, c'est pas tout à fait 1998, c'est plutôt 2008. C'est à ce moment-là que je crée le premier épisode, donc pas tout à fait en 2008, je commence à l'écrire, je le montre la première fois en 2010. C'est l'opération Plomb Durci, Castled, l'opération de militaire de bombardement de la bande de Gaza. C'est un moment où je me trouve à Berlin, où je résidais à l'époque, et où je voyais aux réactions des gens autour de moi qu'il fallait vraiment reprendre cette question depuis le début, cette fois-ci peut-être d'une autre manière, en incluant directement le regard des artistes, et ça donc depuis le début du 19e siècle, sur la Palestine.
Il y a de quoi faire effectivement une vie, alors j'étais à 10 ans près, pardon, mais il y en a pour un certain temps, en tout cas parmi les éléments à l'œuvre, il y a le fait que vous mettiez à mal le rôle des experts dans leur couverture du conflit israélo-palestinien, et notamment le rôle des images aussi, dures, choquantes, qui empêchent bien souvent de penser. Est-ce que c'est pour cela que vous avez intitulé votre spectacle « Proposition documentaire d'écrire Ravage » et que surtout vous n'y montrez aucune image ?
En réalité, je dois beaucoup aux experts et beaucoup aux journalistes. Faut pas non plus penser que je les maltraite avec mon spectacle. Mais c'est la particularité donc du théâtre. Et puis aussi, j'aime beaucoup la radio. À la radio, souvent, il faut s'imaginer des choses, en particulier quand on pense aux retransmissions des cours du Collège de France, du professeur Henri Laurence, dont je m'inspire beaucoup et qui passe des images qu'on ne voit pas. Voilà. Le fait de ne pas montrer d'images du tout, pour moi, c'était une manière de rendre l'histoire et la multiplicité des points de vue plus lisibles. Vous connaissez sans doute ces espèces de petites caricatures dans lesquelles on présente géopolitique du Moyen-Orient et puis on met des flèches qui vont dans tous les sens et on y voit plus rien. Voilà, et bien en réalité, quand on montre aucune image, mais qu'on ne fait que dessiner par des gestes des objets dans l'espace, et bien tout est très clair, lisible, transparent.
Et du coup, formellement, votre proposition est très simple, Adeline Rodenstein. Est-ce que c'est pour qu'il y ait le moins d'interface ou d'interférence possible entre ce qui est dit et le public ?
Je suis en face du public, hein. Nous sommes un petit groupe, on est cinq là. On voit bien que tout le monde regarde. Quand on montre une chose et que cette chose n'est pas là, tout le monde regarde quand même la chose pas là.
On a le sentiment aussi que, peut-être à mesure que le discours politique s'appauvrit toujours plus, que le théâtre peut être le véritable lieu du politique, mais ce qui renvoie aussi tout de suite à la question, que peut le théâtre, hein, qu'est-ce qu'il peut selon vous ?
Ce qu'on essaye de faire, c'est autour de sujets qui nous raidissent le cerveau, à force d'images choquantes, mais aussi à force d'indignation, d'essayer de ramener une espèce d'élasticité dans les pensées, peut-être en passant par la fiction, peut-être en passant par l'humour, de retrouver cette chose que les historiens savent très bien faire, qui est une espèce de distance par rapport à soi-même, pour faire de la place à des points de vue diversifiés, à des contenus plus complexes, en fait.
Puis vous citez en référence Marcel Duchamp ou Fluxus. En quoi est-ce qu'ils sont des repères pour vous ?
Ben oui, alors en tout cas par rapport à ce refus de la conférence au sens traditionnel où je vais vous dire je sais ceci, je sais cela et je sais une troisième chose encore. Nous, on prend la conférence en creux, on montre le processus qui a fait qu'on a compris une chose, puis on est arrivé dans un cul-de-sac, on a dû faire demi-tour, demander à une autre personne qui nous racontait autre chose. dans ce sens-là, je ne pense pas que le spectateur sorte en se disant « Ah, ben j'ai appris ceci, cela », mais qu'il se dise « Ah, mais en fait, on peut prendre ce sujet à bras-le-corps et ouvrir plein de portes et mieux le comprendre, en fait. C'est à notre portée, voilà. » Étant donné que l'histoire n'a pas de sens et que le récit a besoin d'un sens pour avancer, alors on trouve des façons, je pense, divertissantes, ludiques en tout cas, de présenter le paradoxe.
Merci Aline Ehrenstein pour ces quelques éléments qui nous éclairent sur Décrit et Ravage, qui sera présenté, je le rappelle, 11, 12, 13 février au Centre culturel André Malraux, salle nationale de Vendeuvre-les-Nancy. 26 février au Théâtre du Point du Jour à Lyon, 31 mars au 3 avril au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Merci. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anna Segalevitch, Joël Gaillot, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Séam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Ledio, qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Élise Leu et la réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Corinne Rondeau et Noémie Luciani. À notre affiche « Peace to us in our dreams » de Sharounas Bartas et « Peur de rien » de Daniel Arbid. Nous évoquerons aussi plus rapidement « Les Innocentes » d'Anne Fontaine et « La terre et l'ombre » de César Acevedo. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de la dispute « Les choix » de Sharounas Bartas, qui est justement l'invité de la dispute toute cette semaine. Il y aura aussi un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain.